La raison scientifique, donc, qui croyait pouvoir exercer une souveraineté totale sur le domaine de la connaissance et pouvoir dire la vérité sur la réalité, est en train d'opérer un retour critique sur elle-même et de renoncer à ce statut de sujet souverain et d'esquisser un mouvement vers un autre type de connaissance. Et cette critique que la raison exerce sur la dimension scientifique de la connaissance permet aujourd'hui justement de rouvrir tout le problème du phénomène religieux, de la connaissance dans la ligne religieuse, et de reprendre le problème dans une perspective différente, à la fois de celle du Moyen-Âge où la théologie, la raison théologique a exercé le magistère que j'ai dit, et différent aussi de la période du rationalisme positiviste conquérant où la raison positiviste a cru pouvoir prendre pratiquement le rôle de la raison théologique au temps où elle détenait la souveraineté sur la vérité. C'est une autre raison, un autre type de rationalité qui est en train de se dessiner sous nos yeux, et c'est dans le cadre justement de cette rationalité nouvelle que personnellement j'essaye justement de présenter tout ce qui a trait à l'histoire de la pensée islamique dans la perspective d'une reconsidération du phénomène religieux en relation avec une reconsidération du phénomène de la connaissance scientifique. Voilà comment on peut présenter aujourd'hui les rapports entre la théologie et le savoir, le rapport entre l'islam d'un côté et la science et la philosophie de l'autre. Ce sont des rapports à la fois très anciens et entièrement renouvelés aujourd'hui si l'on tient compte de la rationalité nouvelle qui s'impose de plus en plus, heureusement, tout au moins dans les milieux de chercheurs, car on est évidemment très loin sur le plan des grandes masses, sur le plan sociologique, on est très loin, malheureusement, de cette vue neuve sur les phénomènes jusqu'ici opposés, qui continuent à être opposés dans l'esprit du grand nombre, de la religion d'un côté et de la connaissance scientifique de l'autre. On sait en effet comment les musulmans aujourd'hui continuent de proclamer avec véhémence la supériorité absolue de la connaissance religieuse sur toute connaissance de type scientifique accusée d'être réductrice, parce que en réalité les musulmans qui tiennent ce langage, comme les chrétiens qui tiennent ce langage, comme les spiritualistes d'une façon plus générale qui tiennent ce langage, ne connaissent pas bien les efforts que développe la raison moderne, la raison critique moderne, pour retravailler toutes les productions de connaissances qui proviennent justement de cette raison elle-même.
Question numéro 14. Vous n'avez pas, dans la question précédente, fait mention du soufisme. Pourquoi ?
En effet, le soufisme représente, dans le développement de la pensée islamique, une trajectoire que l'on peut différencier à la fois de celle de la recherche théologique et juridique et de celle que je viens de présenter comme étant la ligne scientifique et philosophique. En effet, dans les deux cas, je peux dire la théologie d'un côté et la philosophie et la science de l'autre, nous avons affaire à une pensée spéculative qui essaye surtout de développer une cohérence rationnelle dans des perspectives différentes. Ce que l'on nomme le sophisme en islam, c'est-à-dire le mysticisme, se fonde sur l'expérimentation, en quelque sorte, de la vérité religieuse. C'est-à-dire, elle se fonde sur le travail intérieur qui s'opère psychologiquement à l'intérieur de la conscience par à la fois l'exercice spirituel, et c'est ainsi qu'on le nomme, l'exercice Savayava, sorte de gymnastique de l'âme, qui consiste à intérioriser par la répétition rituelle, par la méditation, par toutes sortes de comportements religieux concertés et répétés, à intérioriser donc tout ce qui est proposé à la conscience par le discours religieux. Et le discours religieux fondateur par excellence, c'est le Coran, ou les évangiles, ou la Bible, comme toujours, pour les différentes communautés. Et comme ce langage de la vie religieuse, tel qu'il est présenté dans les livres révélés, a, comme nous l'avons noté, une grande capacité d'évocation, une grande richesse de suscitation du sens. Il offre à l'exercice spirituel une nourriture spécifique qui permet à chaque cœur, le cœur étant l'organe central à la fois de la réception du message religieux et de cette expérimentation, de cet effort d'intériorisation psychologique des contenus du discours religieux, eh bien, c'est dans le cœur que s'opère une sorte d'alchimie spirituelle qui transforme progressivement, à mesure que l'exercice spirituel se développe, qui transforme la psychologie du croyant, qui devient le mystique. Et la littérature mystique décrit avec un grand luxe d'évocation, de détails, d'analyse psychologique extrêmement fine, décrit les étapes principales de cette recherche spirituelle qui part d'une participation aux rites ordinaires par lesquels s'exprime le croyant, jusqu'à la méditation du maître Sophi, qui s'exprime à la fois par la conduite personnelle du Sophi et par une évocation de type lyrique, de type poétique, ou même, je dirais, philosophico-poétique, telle que nous la trouvons chez les grands maîtres de cette dimension de la connaissance et de la vie religieuse, comme par exemple Al-Hallaj, qui est très connu et très réputé pour la dimension poétique de son expérience religieuse. C'est un mystique qui a poussé cette expérience jusqu'à proclamer une sentence qui lui a été reproché et pour laquelle il a été crucifié, mais que l'on n'a pas comprise justement dans les milieux religieux et théologiques, sentence qui consistait à dire je suis la vérité. Le je, le pronom personnel je de la première personne, exprimant dans la bouche de Hallaj une position intérieure qui est le résultat d'une conquête spirituelle à la suite d'un long exercice spirituel qui conduit dans la perspective mystique à ce que les mystiques appellent l'ittihad, c'est-à-dire l'unification du moi du mystique avec le je divin. Et lorsque cette unification est actualisée psychologiquement dans la personne, dans le cœur du croyant, il peut dire « je », le « je » exprimant simultanément cette unité intérieure actualisée en lui entre le « je » humain de celui qui parle et le « je » divin qui est en quelque sorte incarné, qui a connu une sorte d'opération d'infusion de la dimension divine dans l'espace psychologique humain de du mystique. C'est l'unité. L'unité qui s'exprime donc par un jeu où les deux jeux se confondent. Évidemment, cette manière de présenter les choses est tout à fait inassimilable, incompréhensible pour le discours juridique qui, lui, sépare radicalement les personnes et ne peut concevoir ce type d'unité. Et l'on voit que ce type d'unité qui se réalise entre mon jeu, qui part d'une expérience humaine banale et de dimension humaine banale pour aboutir à l'appropriation du divin et à vivre dans une proximité absolue avec Dieu, on voit que cette expérience-là suppose un rapport au langage, un rapport à la dimension symbolique du langage, une possibilité d'appropriation de la symbolique religieuse dans et par l'exercice rituel de la religion. Tous ces phénomènes-là qui sont décrits dans la littérature spécialisée, sur le rite par exemple, comment par le rite on finit par créer des habitus dans le comportement de l'individu, et comment ces habitus conditionnent même notre corps. C'est l'expérience du yoga, c'est l'expérience que l'on peut trouver dans toutes les opérations de mortification qui se développe dans les exercices d'ascèse, par exemple, etc. On voit comment tout cela se trouve réalisé à la fois dans l'expérience des très grands mystiques et comment tout cela renvoie en définitive à ce langage qui porte cette évocation et cet exercice spirituel à une sorte de paroxysme dans la théologie chrétienne de la Trinité. La Trinité, où nous voyons les trois personnes infuses dans une même personne. Il y a là une sorte de sommet ou d'apothéose, justement, d'une expérience qui se trouve répétée dans des expériences religieuses individuelles. Et voilà pourquoi l'expérience de Hallaj, qui a dit « Je suis la vérité »,« Ana al-Haqq », ne fait qu'exprimer une attitude et aussi une représentation de l'expérience religieuse qui trouve son maximum d'adéquation dans l'expression et aussi dans l'exemplification dans la personne du Christ, avec les trois personnes. Là aussi, c'est une ligne de recherche à laquelle un grand islamologue, un grand chercheur français, Louis Massignon, a touché. Louis Massignon a consacré une thèse tout à fait magistrale et qui est restée exemplaire pour tous ceux qui connaissent ce travail. Qui maintenant remonte très loin, mais qui a occupé toute la vie de Louis Massignon, pratiquement, parce qu'il a publié sa thèse, je crois, juste après la Première Guerre mondiale, et il en a fait une réédition juste avant sa mort, qui est parue juste avant sa mort, même après, je ne me souviens plus exactement, chez Gallimard, dans la collection La Pléiade, en 5 exemplaires. Et qui s'appelle La Passion, le titre lui-même rappelle la Passion du Christ, la Passion de Al-Hallaj, la Passion de Al-Hallaj. Et Massignon, qui était un chrétien, croyant, fervent, a découvert cette dimension qui reproduit l'itinéraire religieux du mystique en relation avec une symbolique, encore une fois, exemplifiée dans la personne du Christ. Il y a là des sortes de situations limites qui permettent de reprendre, là aussi, à un niveau profond, les éléments et les paradigmes constitutifs
de l'expérience religieuse. Et je dis bien de l'expérience en insistant sur le mot expérience, puisque tout ce qui caractérise la vie mystique est lié à l'expérimentation des représentations du logos religieux, à l'actualisation des contenus, sans cela purement imaginaires, véhiculés par le logos religieux, mais qui deviennent une réalité incarnée et incorporée, puisqu'ils deviennent des réalités exprimées par le corps, par l'expérience du yoga ou par les expériences mystiques chez les chrétiens, les musulmans, etc., et qui sont reproduites dans la vie quotidienne du mystique et qui sont enseignées à d'autres, et ainsi se perpétue une tradition mystique. Alors, justement, je dis là, je passe à un autre point qui est lié à tout ce que je viens de dire. Comment cette expérience mystique, qui est d'essence individuelle et qui se communique d'individu à, ou plus exactement de personne à personne, je fais une grande différence entre individu et personne, qui se communique, je dirais même d'âme à âme ou de cœur à cœur, au sens coranique du mot cœur, va devenir un phénomène collectif très tôt et va devenir un moyen de vivre la religion à un niveau collectif et de vivre la religion en relation de nouveau avec le politique. Et il va y avoir un passage de la vie mystique telle que je viens de la décrire et qui est une expérience individuelle à une vie confrérique, maraboutique, qui est la vie d'une expérience religieuse, d'un enseignement religieux au niveau d'une collectivité limitée, d'un groupe social limité, dirigé par ce qu'on appelle un saint ou un marabout, parce que le saint et le marabout va jouer à la fois le rôle de chef politique pour la collectivité et le rôle d'un chef politique qui puise toujours la légitimité de son pouvoir dans son appartenance à une lignée qu'il qualifie de mystique. Et cette évolution ou ce passage de la mystique à la vie confrérique coïncide avec l'affaiblissement de l'État musulman central, la dispersion du politique, la dispersion du social et la prise en charge des groupes sociaux dispersés par des chefs locaux qui deviennent des saints locaux, qui deviennent des marabouts, comme diront les Français, parce que quand les Français arrivent au Maghreb au XIXe siècle, le processus historique du passage de la vie mystique dans son apogée et dans son la première phase d'expansion et dans la phase d'expérimentation, ce processus qui a commencé assez tôt, depuis le 11e siècle jusqu'au 19e siècle, il a atteint un degré d'expansion sociologique et un degré d'efficacité politique qui ont fait que le phénomène maraboutique était devenu un phénomène à la fois social et politique extrêmement visible. Et c'est par les marabouts que la première administration française a essayé de gouverner l'Algérie, par exemple, parce qu'ils constituaient une sorte d'intermédiaire et de médiateur d'un pouvoir français laïque avec un pouvoir indigène, comme on l'a qualifié. Et cette histoire, d'ailleurs, finira assez mal pour les marabouts, puisque les marabouts ayant été ainsi utilisés par le régime colonial vont être progressivement disqualifiés par le biais du politique. Ils vont être disqualifiés en tant qu'autorité religieuse, et à la veille de l'indépendance, le maraboutisme a subi une disqualification presque totale par l'intermédiaire du politique. C'est un phénomène extrêmement intéressant à observer. Ils sont venus au pouvoir par l'intermédiaire du religieux pour exercer effectivement un pouvoir politique, et ils ont été expulsés du religieux où ils prétendaient exercer l'autorité par le politique, par un politique perverti et un politique pervertissant le religieux. Voilà un exemple extrêmement intéressant d'analyse des rapports changeant de signe, du positif au négatif ou du négatif au positif, entre le religieux et le politique. Voilà ce qu'on peut dire sur la dimension donc mystique à l'intérieur de l'islam, prolongée par la dimension confrérique.
Question numéro 15. Comment se définissent les deux courants religieux essentiels, l'exotérisme et l'ésotérisme, dans la perspective islamique, et comment ces deux courants coexistent-ils dans le monde musulman contemporain?
Oui, voici deux termes, exotérisme et ésotérisme, qui sont en effet devenus assez vite deux mots clés dans la conceptualisation de la vérité dans le domaine islamique, mais aussi dans d'autres domaines religieux. L'exotérisme en arabe, c'est le zahir. Zahir, c'est ce qui est apparent, ce qui est manifesté, ce que l'on peut voir. Et l'ésotérisme, c'est le batin, c'est le ventre, ce qui est à l'intérieur. Le batin, en arabe, c'est l'intérieur, ce qui est le ventre, par exemple. C'est donc ce qui est caché et ce que l'on ne peut percevoir et voir que si l'on fait un effort en creusant pour aller vers le centre, vers l'endroit, le cœur où la chose se trouve cachée, où la vérité se trouve cachée. Voilà, ce sont donc des usages métaphoriques pour désigner des niveaux d'existence et donc des niveaux de perception du sens. Au départ, donc, c'est un phénomène extrêmement général. C'est un phénomène général qui caractérise, je dirais, le fonctionnement de tout langage. Dans le langage, il y a un extérieur et un intérieur. Le langage en tant que discours, dans le discours manifesté. Il y a un extérieur et un intérieur. L'extérieur, ce sont les mots ou les sons que nous entendons par l'oreille, les mots que nous voyons écrits. En restant à la surface de ces mots ou à la surface de ces sons, eh bien, il y a un premier sens qui est véhiculé et qui nous est suggéré. On peut se contenter de ce premier sens et fonctionner socialement dans nos rapports avec ce premier sens. C'est le sens ésotérique, le sens premier. Exotérique, c'est le sens exotérique, le sens à part, le sens que l'on peut voir du premier coup sans effort spécial. Mais il y a un deuxième sens dans le discours qui est le sens ésotérique pour lequel il faut faire un effort pour l'expliciter et le décrypter, l'arracher au centre où il se trouve. Cette distinction, vraie donc pour tout discours, est éminemment vraie pour le discours religieux, pour les raisons que j'ai déjà dites, à savoir que le discours religieux utilise beaucoup le symbole, la parabole, la comparaison, la métaphore, qui sont toutes des procédés de langage et des outils de l'expression qui enrichissent l'expression et qui donnent à réfléchir, qui donnent à penser sur le sens beaucoup plus qu'ils ne délivrent directement le sens. Et c'est toute la différence entre le langage de la communication quotidienne où en effet il faut aller vite, et il faut être clair pour que notre action ne perde pas trop de temps, et puis le langage spécialisé, donc comme le langage religieux, ou le discours philosophique, ou le discours poétique, ou tous les discours qui essayent de suggérer le sens en enrichissant enrichissant le plus possible l'expression du sens. Et voilà pourquoi, lorsque les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, se sont trouvés en face de la tâche de dire le sens de l'écriture religieuse, ont rencontré ce problème. Et il y a eu une séparation, une différenciation, entre ceux qui ont adopté la position pragmatique d'un sens immédiatement saisissable, le sens apparent, le sens manifeste du discours. Bien entendu, les juristes vont être les premiers à s'en tenir à cet aspect du fonctionnement du langage, parce que les juristes ont besoin d'énoncer des règles juridiques qui ne souffrent aucune ambiguïté, qui ne donnent pas lieu à des interprétations, puisqu'il s'agit d'assurer la justice et un ordre tranché de la vérité. Et ce seront donc les partisans du sens manifeste, du sens exotérique. Il y aura des théologiens qui suivront cette dimension-là, qui suivront cette position sur le sens. Ce sont les théologiens qui veulent éviter les divisions de la communauté par la division inévitable sur le problème de l'interprétation. Nous avons donc une position théologique qui dit: il faut recevoir le discours coranique tel qu'il s'offre à nous, sans poser aucune question au sujet de son interprétation. C'est l'école des Hanbalites, bien connue, qui est une tendance profonde de la pensée islamique. L'école Hanbalite a représenté une des lignes de force de l'attitude à la fois juridique et théologique dans la pensée islamique. Et c'est l'école qui subsiste encore de nos jours, et c'est l'école qui triomphe en particulier dans un des pays les plus présents aujourd'hui dans le monde musulman, c'est l'Arabie. L'Arabie se réclame encore de nos jours de la pensée hanbalite. Il y a eu une autre école importante qui est apparue au 8e, 9e siècle, 3e siècle de l'Égypte. C'est une école justement qui s'appelle Zahirit, l'école qui sont des partisans explicites des Zahir. Ils ont pris le nom lui-même exotérique. C'est l'école exotérique, l'école partisane de l'exotérique, illustrée par un certain nombre de penseurs, et en particulier un très très grand penseur polygraphe très connu, un Andalou, qui s'appelle Ibn Hazm, qui a vécu en Andalousie, à Cordoue, et qui a laissé un très grand nombre d'ouvrages. Ouvrages qui représentent aujourd'hui, encore pour la pensée islamique, une sorte de modernité, parce qu'il a fait de ce problème le centre de sa réflexion, et il a pratiquement créé une ligne de pensée qui lie fondamentalement la réflexion théologique, mais une réflexion théologique très profonde qui pose le problème du sens, en tant que c'est un problème strictement lié au fonctionnement du langage, ce qui est un problème moderne. Il a posé ce problème donc à partir de toute la tradition musulmane, et en particulier des sources de cette tradition, le Coran et le Hadith, et il a développé à la fois une théologie et un droit musulman sur la base d'une théorie extrêmement poussée du Zahir. J'insiste sur cela parce que cette théorie du Zahir intéresse ce que j'appellerais aujourd'hui la philosophie du langage, et donc intéresse le problème du sens, en tant que c'est un problème lié aux instances de la pensée et du langage, les rapports de la pensée et du langage. C'est d'une grande richesse, et malheureusement, cette richesse est là, elle existe, elle n'est pas encore bien exploitée. De même que j'aurais dû citer tout à l'heure à côté de Al-Hallaj, j'y reviens, mais je pense qu'on insérera, le nom d'un très grand mystique qui s'appelle Ibn Arabi, qui est un Andalou lui aussi, et qui a écrit une œuvre tout à fait fondamentale qui illustre tout le phénomène de ce que l'on peut appeler l'imagination créatrice. Ça va ?
À propos d'Ibn Arabi, je disais qu'il illustre tout le problème de l'imagination créatrice en relation avec la dimension religieuse telle que je l'ai décrite chez les soufis, mais une dimension religieuse inséparable elle-même de la dimension poétique, et poétique, comme on disait, c'est-à-dire créatrice. C'est une dimension également d'une très grande richesse qui pose pour notre recherche moderne et notre réflexion moderne sur le sens et les instances d'émergence du sens et de transformation du sens, qui posent des problèmes tout à fait cruciaux. Nous avons là des documents psychologiques et des documents aussi intellectuels qui nous permettent aujourd'hui d'étudier ces problèmes-là. De la même façon, donc, Ibn Hazm, dans son œuvre, pose exactement le même problème de l'émergence du sens et de la captation du sens à travers une théorie de l'ésotérique, une théorie très poussée de l'ésotérique, qu'il faut reprendre aujourd'hui parce qu'elle permet de réfléchir sur des fondements. Ça reste des fondements ou des origines de la question du sens. Alors, pour la dimension de l'ésotérisme, elle a été elle aussi illustrée. Et l'ésotérisme, elle a
demandé, vous lisez bien comme ça.
Oui, ça va. Elle a été illustrée par les chercheurs de diverses familles d'esprit, la question de l'ésotérisme. En effet, en gros, on dit qu'on trouve les ésotériques essentiellement du côté de l'islam chiite, mais il ne faut pas identifier l'ésotérisme avec exclusivement le chiisme, ce serait faux. En réalité, comme je viens de le dire, l'ésotérisme est une dimension de l'approche du sens, du problème du sens. Et donc, l'ésotérisme a affaire avec toute la dimension gnostique de la connaissance, et la gnose est une dimension culturelle et intellectuelle extrêmement puissante dans l'histoire de la pensée en Proche-Orient toujours, mais elle a débordé évidemment le domaine du Proche-Orient. Elle est également en relation avec elle est en relation avec toute la dimension de la recherche alchimique, avec tout l'univers du secret et l'univers de l'initiation à la quête du sens, car la quête de la pierre philosophale est une forme de la quête du sens profond et du sens ultime menée par la technique alchimique, et elle se retrouve toujours dans la direction de pensée et d'exercice, comme je l'ai dit, mystique. C'est donc là aussi quelque chose de très large, qu'il ne faut pas ramener simplement à la question de l'herméneutique du discours religieux. Bien entendu, il faut revenir à l'herméneutique du discours religieux. Il y a donc toute une tendance de l'herméneutique qui se réclame de l'ésotérisme, c'est-à-dire du sens caché du discours de la révélation, de la dimension inaccessible au commun des mortels, inaccessible aux non-initiés, parce que c'est une dimension qui nécessite une formation technique, des études, une initiation au sens technique de l'initiation du disciple par le maître aux arcanes d'une connaissance. Et bien entendu, tout ceci a été beaucoup développé dans des ouvrages spécialisés, et nous avons toute une herméneutique du discours coranique qui a effectivement développé toute une symbolique de ce discours, en particulier dans la ligne chiite ismaïlienne de l'interprétation, mais de toute la pensée religieuse en général. Et je citerai en particulier
la grande œuvre collective que l'on appelle les Rasa'il Ikhwan Safa, c'est-à-dire les encyclopédies écrites par les Ikhwan Safa, qui sont des intellectuels ismaéliens qui ont travaillé au Xe siècle et qui sont des intellectuels d'obédience ismaélienne et qui ont développé toute une interprétation symbolique du monde, de l'histoire, de la cité, de la réalité religieuse, etc. et qui ont fait triompher cette dimension du sens ésotérique, et voilà pourquoi on les appelle aussi les Batriniya, c'est-à-dire les partisans du Batri. Alors, cette opposition et cette différenciation entre l'ésotérisme et l'exotérisme a bien entendu des conséquences politiques qui se sont traduites par des conflits d'école. C'est ainsi que le grand penseur musulman soumite Al-Razali, qui est mort en 1111 et qui donc a vécu dans le courant du 11e siècle, a mené un combat très connu, très, très soutenu, et très, très puissant contre ce qu'il a appelé les Batiniya, c'est-à-dire essentiellement ces Ismaéliens qui ont développé donc cette vision symbolisante, mythifiante de la dimension religieuse et à travers la dimension religieuse de l'ensemble de la vision du monde, puisque c'est une vision encyclopédique du monde qui avait été développée, enseignée et répandue par les Ikhwan Safa, les frères sincères, qui ont écrit cette encyclopédie. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. On peut citer d'autres penseurs, évidemment, soit ismaéliens, soit imamiens, qui se sont illustrés dans ce savoir ésotérique et cette dimension ésotérique de la pensée islamique. Le problème, là aussi, est de savoir qu'est-ce que fait la pensée islamique actuelle de ce riche trésor de pensée, car c'est un riche trésor de pensée accumulé de part et d'autre. J'ai insisté sur la richesse de l'ésotérisme, la richesse intellectuelle de l'ésotérisme, la richesse symbolique de l'ésotérisme. Il y a là des richesses tout à fait inexploitées jusqu'à présent par la pensée islamique, parce que la pensée islamique ne possède pas encore l'équipement intellectuel nécessaire pour pouvoir déceler justement ces contenus extrêmement riches pour une reprise moderne de la question du sens, pour une reprise moderne de problèmes qui sont des problèmes très très anciens, mais en même temps très modernes, en ce sens que nous les retrouvons aujourd'hui à travers toute la quête sur la jeunesse du sens, les métamorphoses du sens qui sont accomplies par les linguistes, par les sémioticiens, par les philosophes, par les psychologues, par les psychanalystes, etc. Tout cet équipement intellectuel moderne donne une dimension extraordinairement attachante, excitante au possible, à cette littérature qui est considérée comme médiévale, dépassée, désuète, etc. Elle est désuète pour une pensée positiviste. Et elle est désuète pour une pensée orthodoxe, rigide, privée de tout équipement intellectuel. Mais elle devient extraordinairement riche et dynamisante pour la recherche et la réflexion aujourd'hui si nous savons ancrer les interrogations sur le sens qui se développent aujourd'hui dans une expérience qui est loin d'être négligeable. C'est, à mon sens, là toute une dimension qui permet d'enrichir la rationalité moderne actuelle, qui sans cela se priverait de substances tout à fait essentielles développées au cours de l'histoire des cultures, de même que cette substance-là qui dort et que l'on ne sait pas exploiter avec les pensées justement appauvries par leur développement idéologique, cette substance-là pourrait reprendre vie et venir s'investir dans une recherche renouvelée, embrassant à la fois un passé et un présent pour un autre futur de la pensée.